Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux interrogations sur l'avenir de cette puissance que sont les Kurdes au Moyen-Orient après le référendum de septembre dernier au Kurdistan irakien et la démission de Massoud Barzani de la présidence de la région autonome. D'aucuns parlent de fiasco politique, regard sur les conséquences géopolitiques de ce référendum et au-delà sur les incertitudes qui pèsent sur les mouvements kurdes de la région face à l'évolution des crises du Moyen-Orient. Quelles avancées ou reculs pour la question kurde? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Adel Bakawan, sociologue, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, chargé de cours à l'Université d'Evry, membre associé du laboratoire CADIS de l'EHESS. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Piau, journaliste et grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages sur l'actualité de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le dernier, Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient, aux éditions Les Petits Matins. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Grosjean, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en particulier du PKK, les Kurdes de Turquie, auteur de La Révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Ce référendum du 25 septembre, il a vu le oui l'emporter. Il était cependant loin de faire l'unanimité. La Cour suprême d'Irak l'a déclaré inconstitutionnel, ce référendum. Dans la foulée, mi-octobre, les forces gouvernementales et paramilitaires irakiennes sont entrées en mouvement, reprenant le contrôle de zones disputées entre le Kurdistan d'Irak et Bagdad. Les aéroports ont été fermés, le contrôle des puits de pétrole confisqué. Il y a eu beaucoup de violence, des déplacements de population. Fiasco militaire, fiasco politique. Comment le gouvernement régional du Kurdistan peut-il se remettre de cette situation? Et Adel Bakawan, comment expliquer aussi que les forces irakiennes, les milices chiites irakiennes et les pasdars en venue d'Iran aient pu entrer si facilement, notamment dans la province de Kirkouk?
Tout simplement par un accord implicite entre Washington, Bagdad, Téhéran et une partie de l'UPK. L'UPK, c'est-à-dire le parti politique de Jalal Talabani. Et pour le dire clairement, la famille de Talabani. Ils ont fait un accord pour que les milices chiites irakiennes, et non pas les milices chiites iraniennes, il faut le dire, hein, ils sont des milices chiites irakiens, regroupés dans une organisation qu'on appelle Hashd al-Shaabi, c'est-à-dire la mobilisation populaire. Ils ont repris la ville, il n'y a pas eu la résistance.
C'est l'expression d'un désaccord et d'une désunion entre les mouvements kurdes au Kurdistan irakien.
Oui, on peut le dire comme ça. Il y avait un consensus à la veille entre l'UPK, le PDK, les grands partis politiques, hein, les islamistes et les laïcs, hein, pour ne pas rendre Kirkouk, pour ne pas rendre les zones disputées qui constituent à peu près 51% du territoire revendiqué par le gouvernement régional du Kurdistan. Mais le lendemain, il y avait un autre accord dans les coulisses entre les quatre capitales que je sais. Alors par cet accord, oui, il y a eu un désaccord, oui, il y a eu une sortie de ce consensus, oui, là on a compris combien la maison kurde est fragile, combien le GRK souffre des grandes fragilités militaires, économiques, sécuritaires, politiques, géographiques, géopolitiques, enfin à tous les niveaux.
Et je l'évoquais, fiasco militaire, fiasco politique, Olivier Piau.
Oui, je crois que ça consacre quand même la fin d'une période pour cette région autonome du Kurdistan, donc depuis sa création en 92. Ce face-à-face avec Bagdad, il existe depuis le début. Il était contenu jusqu'ici par, on va dire, un contexte régional et international où, grosso modo, il y avait une sorte de consensus de fait entre le PDK et l'UPK au nord et puis les différentes parties à Bagdad. Je crois que là, Massoud Barzani a volontairement accéléré les choses pour des raisons qui sont propres à, je dirais, sa fin de régime. C'est-à-dire, il était en difficulté déjà depuis de nombreuses années. Souvenons-nous, à partir de 2003, il n'a un mandat prolongé exceptionnellement par le Parlement que sur 2 ans. Donc, en 2013, il est continué à être président, mais d'une manière un peu exceptionnelle. Et depuis 2015, en réalité, il n'a plus de mandat officiel et le Parlement d'Erbil, de fait, ne fonctionnait plus. Ce qui fonctionnait, c'est le résidu de l'autoritarisme du PDK sur cette zone, sur la capitale d'Erbil, et il s'est servi de ça, je crois, jusqu'au référendum pour tenter d'avoir en quelque sorte une survie politique dans un contexte où les divisions étaient très fortes, sociales, politiques, au Kurdistan, contre lui, avec d'autres partis qui partageaient pas sa façon hégémonique de contrôler cette région. Donc évidemment, personne pouvait le contrer sur le référendum, parce que l'indépendance au Kurdistan, tous les Kurdes sont pour. Mais une fois ce résultat même très positif acquis, les 92%, ce qu'on voit arriver, c'est la crise d'un pouvoir vermoulu. Et Bagdad, je crois, l'a bien compris. Et s'ils ont aussitôt pris la riposte, c'est bien sûr parce qu'ils avaient le soutien à l'extérieur, mais aussi parce qu'ils ont senti cette fragilisation. Et donc, ils ont repris en quelques semaines ce que le Kurdistan du nord irakien avait mis des années à acquérir.
Alors, pour justifier ce référendum, on évoque la crainte de la part de Barzani de voir le gouvernement de Bagdad débarrassé de la menace que représentait Daesh, tenter de rétablir au nord du pays, donc au Kurdistan irakien, le statu quo hanté 2003. Ça vous semble un argument valable? Est-ce que c'est important? Et au-delà de ça, je repose ma question, comment est-ce que le gouvernement régional du Kurdistan peut se remettre de la situation qui prévaut aujourd'hui après ce référendum, la démission de Barzani, et tout ce qui se passe sur le plan économique? On sent Bagdad vouloir étrangler au jour d'aujourd'hui le Kurdistan irakien. Adel Bakawan.
Si vous me permettez, je reprends cette analyse pour répondre à votre question. C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est un niveau de c'est un facteur qui participe fortement à la prise de décision de la mise en place du référendum, mais il n'est pas le seul facteur. À mon sens, il y a entre 7 et 9 facteurs majeurs qui ont participé à la prise de cette décision, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps pour analyser tous ces facteurs-là. Est-ce que Barzani avait peur, par exemple, que Bagdad, après la guerre de Daesh, attaque le Kurdistan irakien? Oui, c'était un argument, un fort argument avancé par Massoud Barzani. Mais cet argument n'est pas... Lorsqu'on examine cet argument, il n'est pas valide. Il n'est pas valide, pourquoi? Parce que Massoud Barzani, s'il était conscient que Bagdad avait préparé un plan d'attaquer ou une stratégie de réattaquer le Kurdistan irakien, dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas préparé les conditions objectives pour résister contre cette attaque-là? Pourquoi il n'a pas unifié au moins les forces des Peshmerga? Il était le commandant suprême des forces Peshmerga. Pourquoi pendant 27 ans, il n'a pas pu réunir les forces de Peshmerga dans son ministère, premièrement? Deuxièmement, est-ce que c'est la fin de l'histoire pour le GRK? Non, absolument pas. Personnellement, je pense que l'histoire de l'Irak n'est pas écrite.
GRK, donc le gouvernement régional du Kurdistan.
Le gouvernement régional du Kurdistan irakien. C'est pas Abadi qui a gagné cette guerre, c'est pas Bagdad qui a gagné cette guerre contre Erbil, c'est pas la communauté chiite qui a gagné cette guerre contre la communauté kurde, non, c'est un contexte international. Malheureusement, le président du GRK n'a pas saisi l'impact de ce contexte international. Toutes les capitales amies du GRK, amies d'Erbil, ont refusé catégoriquement la mise en place du référendum, de Washington à Paris. Barzani disait auparavant, il y a 80 pays qui sont prêts pour reconnaître l'indépendance du Kurdistan. Et on a bien vu, aucun pays sur cette planète n'a reconnu, à part Israël, ne voulait pas reconnaître l'indépendance du Kurdistan. Et donc, les Kurdes ont perdu 51% des zones détachées, si les Kurdes ils ont perdu la main sur le pétrole, si les aéroports sont fermés, c'est parce qu'il y a un accord, il y avait un accord international. Et personnellement, je pense que dans l'avenir proche, dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire ici jusqu'à les élections nationales irakiennes, les choses peuvent changer et les rapports de force ne sont pas forcément contre le GRK et pour Bagdad. Ne seront pas forcément.
Alors, commentaire Olivier Piau, la question qui vient après ce que vient de dire Adel Bakawan, c'est finalement, personne ne veut d'un État kurde indépendant dans la région. C'est cela aussi que révèle cette question du Kurdistan et les prises de position des uns et des autres, Olivier Piau.
Oui, je ne sais pas si même aujourd'hui personne ne le veut. En tout cas, personne n'a accepté de se faire dicter l'agenda par Monsieur Barzani. C'est-à-dire que Monsieur Barzani a décidé de façon unilatérale, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont liées aussi, je pense, à l'image qu'il avait envie de laisser dans l'histoire, donc très personnelle, il a décidé seul de cette de poser la question de ce référendum là, maintenant, avant même que les derniers bastions de Daesh ne soient, puisqu'en septembre c'était encore le cas, détruits en Syrie. Donc, je crois que personne n'a voulu se faire imposer cet agenda. Maintenant, la question qui est posée par ce référendum, qui est celle d'une indépendance éventuelle du Kurdistan irakien dans un futur, une future reconstruction du Moyen-Orient, je pense qu'elle est toujours posée, mais elle est posée dans une option parmi d'autres, parmi de nombreux autres. D'abord parce que la question kurde au Moyen-Orient ne se résume pas au Kurdistan irakien.
On va le voir, bien sûr, avec Olivier Grosjean notamment.
Et ensuite parce qu'il y a tout un contexte international autour qui fait que chaque grande capitale a les yeux sur une carte complexe où il y a une multitude d'acteurs, des scénarios ouverts, et que les Kurdes ne sont qu'un élément de l'échiquier. Alors que M. Barzani a souhaité que tout l'échiquier tourne autour de lui. C'est ça que les autres ont refusé.
Alors, ce qu'on a senti, c'est que finalement, M. Barzani, il avait d'une certaine manière un peu perdu le contact avec la réalité des choses, et que peut-être son besoin de pouvoir a fait que il est allé là où il est allé avec ce référendum. Il était, ce référendum, on l'a compris, très agaçant pour Bagdad. On l'a compris aussi dangereux pour la Turquie et également pour le régime iranien. Qu'est-ce que l'on peut dire des répercussions sur les autres mouvements kurdes de ce qui s'est passé au Kurdistan irakien? Quels signaux, finalement, Olivier Grosjean, ce référendum et toute la situation qui prévaut depuis envoie pour les différents mouvements kurdes?
Alors, je crois que le Kurdistan irakien et le projet de référendum de Barzani s'inscrivait aussi donc dans l'après-État islamique, donc dans une volonté de se rappeler au bon souvenir des différentes puissances mondiales, la Russie, les États-Unis et autres, en leur disant « nous avons combattu l'État islamique, aujourd'hui nous avons la légitimité pour demander que notre autonomie, voire notre indépendance, soit assurée ». Il se passe la même chose au Kurdistan syrien. C'est-à-dire qu'on assiste on a assisté en septembre, on assiste là en ce moment à d'autres élections, et en janvier il y en aura encore d'autres, et on est dans une volonté d'institutionnaliser l'autonomie du Kurdistan syrien.
Autonomie,
puisque justement le PYD, le parti qui contrôle le nord de la Syrie, aujourd'hui ne revendique pas du tout l'indépendance, mais revendique une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir central de Damas. Du coup, oui, il y a évidemment des répercussions, mais elles sont surtout à observer du côté des soutiens de ces deux entités, à savoir, est-ce que après l'État islamique, les États-Unis, la Russie continueront à soutenir l'autonomie du Kurdistan syrien ou l'autonomie ou l'indépendance du Kurdistan irakien? De fait, on a vu que pour le Kurdistan irakien, ce n'était pas assuré du tout.
Et ça va dépendre, bien évidemment, aussi de la question de l'Iran, mais peut-être qu'on y reviendra un tout petit peu plus tard. Sur la question du PKK en Turquie, est-ce que cet échec de Barzani va donner plus de pouvoir au PKK et peut-être permettre au mouvement de s'ériger en acteur de référence pour la question kurde, Olivier Grosjean?
Alors, à l'échelle régionale, il me semble que le PKK est déjà un acteur très dominant. Alors, c'est vrai qu'il est dans une concurrence permanente avec le PDK. Ce sont les deux acteurs de la scène régionale kurde. C'est vrai aussi que le PKK va s'en sortir peut-être un petit peu grandi.
Le puisque... PDK, juste, on le précise, le PDK de Barzani.
Non, je parlais du PKK. Oui, alors le PDK de Barzani est plutôt en échec. Le PKK, pour le coup, jusqu'à présent, n'a pas été tenu en échec par ses actions. Du coup, il en sort aussi peut-être, alors pas forcément grandi, mais en tout cas comme un acteur qui tient encore, lui, à la fois en Syrie et à l'échelle de la région, puisque c'est un parti qui agit via des organisations sœurs en Iran, en Irak et en Syrie.
Un commentaire, Olivier Piau, Adèle Bakawan?
Oui, moi je crois que, pour avoir suivi pas mal dans mes reportages les relations houleuses entre le PKK et le PDK et l'UPK, en tout cas du côté turc, je pense qu'il y a une partie de la direction du PKK aujourd'hui qui se félicite de la claque que vient de prendre le PDK de M. Barzani. Parce que pour tout dire, quand même, sur la question kurde de manière régionale, M. Barzani a décidé depuis des années de faire cavalier seul, y compris dans les instances européennes de congrès en exil du peuple kurdistan où il ne siégeait plus, où il venait quasiment à plus aucune réunion, en disant en gros à tout le monde, le phare kurde de cette région, c'est l'Irak, et les autres, vous passerez après en fonction de cette priorité. Donc il mène la dragée haute à tout le monde depuis 15 ans. Donc là, évidemment, le PKK pouvait pas être hostile au référendum d'indépendance, parce que ça va de soi.
Il s'est pas vraiment prononcé, d'ailleurs, hein. Il était...
Il s'est pas vraiment prononcé, mais par contre, Monsieur Barzani s'est prononcé au moment du référendum d'Erdogan en félicitant le président turc, qui par ailleurs massacre ses petits copains kurdes de Turquie. Donc, n'oublions pas ces clivages qui sont des clivages fratricides. On parle pas seulement d'opposition politique, là. Il y a, entre le PDK et le PKK, des gouffres de sang, depuis 15 ans, y compris dans l'alliance des forces du PDK avec l'armée turque dans les maquis du Kurdistan contre le PKK. Donc aujourd'hui, le PKK, qui n'est pas naïf et qui a une stratégie transfrontalière avec la Syrie et notamment pour fragiliser la Turquie, je pense qu'il se félicite de cet échec, tout en ayant conscience que si c'est le début d'une régression de la cause kurde par les acteurs internationaux, lui-même en paiera le prix derrière. Donc, c'est un peu compliqué, parce que, en gros, quand même, la claque que vient de prendre Monsieur Barzani, c'est une claque pour l'ensemble de la cause kurde, parce que c'est une façon pour tout le monde de dire aux Kurdes, là, en Irak ou ailleurs, vous passerez après nos prérogatives de stratégie régionale. Et ça, ça sert personne.
Je sens qu'Adel Bakawan voudrait ajouter quelque chose.
Oui, deux petites remarques et rapidement. La première remarque, c'est pas parce que je suis d'origine kurde d'Irak que non, c'est absolument rien à voir. D'une manière objective, je pense que on est tous d'accord que le gouvernement régional du Kurdistan est une entité reconnue juridiquement par la constitution irakienne, ce qui n'est pas le cas pour les Kurdes de Syrie, ce qui n'est pas le cas pour les Kurdes de Turquie. Oui, mais ce qui n'est pas le cas encore. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Et l'avenir de la Syrie, c'est vraiment, on sait pas. Enfin, c'est un ensemble de forces en rapport, en compétition, en guerre fratricide. C'est un enfer, la Syrie. On sait pas, enfin, l'avenir n'est pas écrit. Mais pour les Kurdes d'Irak, depuis au moins 2003, le gouvernement régional du Kurdistan est une entité juridique, hein, reconnue nationalement et internationalement, premièrement. Deuxièmement, au Kurdistan irakien, malgré toutes les critiques, hein, que j'ai avancées, que j'ai publiées, que partout, hein, dans mes articles, dans mes interventions, malgré toutes les grandes fragilités, le Kurdistan irakien dispose, lorsqu'on les compare par rapport aux autres Kurdistans de Turquie, de Syrie et de l'Iran, des capitaux énormes. Par exemple, le Kurdistan irakien, vous avez malgré tout un système économique, malgré tout un gouvernement régional, malgré tout une assemblée régionale, hein, l'assemblée du, malgré tout un champ politique, malgré tout une reconnaissance internationale. C'était juste hier que le premier ministre kurde Nechiran Barzani a été reçu par le président de la République française, ce qui n'est pas le cas pour les Kurdes de Turquie, pour les Kurdes de Syrie ou les Kurdes d'Iran.
Ça, c'est le bénéfice de l'autonomie du Kurdistan irakien depuis plus de 10 ans. C'est
absolument
bien ça qu'il faut entendre.
Et à ce jour-là, malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on peut forger par rapport aux Kurdes, vous avez une génération d'hommes d'État. Ils se comportent comme hommes d'État avec les hommes d'État. Par exemple, bien évidemment, les Kurdes de Syrie, ils sont des combattants, ils sont en combat contre Daesh, ils se comportent, ils traitent avec les militaires américains, mais les diplomates du GRK, ils traitent les diplomates à l'échelle internationale. Enfin, je voulais dire, il y a quand même un écart de 30 ans d'avance des Kurdes d'Irak sur les autres Kurdistan. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va passer en Turquie? Moi, je pense en Turquie, on est très très loin de... Hein, de premier mot, deuxième remarque, et rapidement, d'une manière synthétique, vous êtes beaucoup plus légitime, Olivier, que moi, mais vous deux, hein, pour parler du PKK, mais je pense personnellement que la question centrale pour le PKK n'est pas la kurdicité, n'est pas le kurdisme, n'est pas le rêve d'une indépendance du Kurdistan, d'un Kurdistan. Le PKK est un mouvement de gauche, si je dis pas la gauche de la gauche, qui a d'autres projets, qui a d'autres rêves. Le Kurdistan en tant que territoire, les Kurdes en tant que population, ce sont des éléments mobilisés dans la mise en place de ces projets-là, ces projets qui n'ont pas beaucoup de connexion avec la kurdicité.
Alors, on redémarrera la deuxième partie de l'émission justement sur les projets du PKK. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Adel Bakawan, Olivier Piau et Olivier Grosjean dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'avenir de cette puissance que sont les Kurdes au Moyen-Orient. Nous retrouvons nos invités, Adel Bakawan, sociologue, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, chargé de cours à l'Université d'Evry, membre associé du laboratoire CADIS de l'EHESS. Olivier Piau, journaliste et grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages sur l'actualité de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le dernier, Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient aux éditions Les Petits Matins. Et Olivier Grosjean, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Spécialiste en particulier du PKK, les Kurdes de Turquie, auteur de La Révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie aux éditions La Découverte. Olivier Grosjean, on a terminé la première partie de l'émission sur le PKK qui se félicite de l'échec du référendum au Kurdistan irakien. Et la question qui se posait était de savoir si le PKK était le mouvement qui allait s'ériger finalement l'acteur de référence dans la région. Et on a senti une sorte de désaccord entre la position que prenait Adel Bakawan qui s'interrogeait sur le PKK à lui-même, dont il rappelait que c'était un mouvement de gauche, et il s'interrogeait sur les projets et les rêves du PKK.
Oui, alors sans doute Adel Bakawan faisait référence en fait à l'évolution idéologique du PKK qui a commencé sa guerre d'indépendance en 1984 une guerre contre l'État turc et qui visait justement un État indépendant et à terme socialiste au Kurdistan. Et c'était au départ un mouvement d'ailleurs pan-kurde. L'idée c'était d'avoir un grand Kurdistan indépendant. Et puis progressivement au fil des années, les revendications du PKK se sont transformées. Dès le début des années 90, il ne revendique plus que l'autonomie. En 1999, le chef du PKK est arrêté, Abdullah Öcalan, et à partir du début des années 2000, on a un changement dans l'idéologie avec l'idée que on ne demande ni l'indépendance ni l'autonomie territoriale. Par contre, on va construire l'autonomie nous-mêmes. Donc on est dans une forme, alors ils appellent ça le communalisme libertaire, le confédéralisme démocratique qui se rapproche un petit peu des idées de Murray Bookchin, un théoricien anarchiste américain. Et l'idée, c'est donc effectivement de rester ancré à gauche, mais d'introduire des éléments libertaire dans une idéologie qui était au départ très marxiste-léniniste. Donc c'est pour ça qu'on peut le qualifier évidemment de parti de la gauche radicale. De fait, se pose la question aujourd'hui de savoir si le parti est toujours nationaliste ou pas, et s'appuie uniquement sur la kurdicité ou a laissé tomber cet élément-là. Je crois que les bases sociales du PKK sont toujours les Kurdes. Alors, c'est vrai que des alliances aujourd'hui en Turquie ou ailleurs lui ont permis de dépasser le strict cadre de la kurdicité, avec notamment un parti pro-kurde légal en Turquie qui aujourd'hui s'est construit à l'échelle nationale et donc n'est plus qu'un parti pro-kurde et non plus seulement un parti kurde. Donc là, il y a des évolutions, mais il me semble encore que les bases sociales restent majoritairement kurdes, que ce soit d'ailleurs en Iran, en Syrie ou en Turquie.
Olivier Piau.
Moi, je crois que le PKK a la même légitimité que tous les autres partis kurdes, le PDK ou d'autres en Iran, pour être un représentant d'une certaine conception de la kurdicité. Cette kurdicité, elle est différente en Turquie, en Irak, en Iran, dans chacun des pays. Parce que les histoires pour défendre cette kurdicité ou pour en réclamer le respect sont différentes. La grosse différence, c'est que depuis 92, les Kurdes d'Irak autour de l'UPK et du PDK ont un patrimoine à gérer, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu l'autonomie. Ce qui n'est le cas pour aucune des autres communautés kurdes. Et en Turquie, c'est pas faute pourtant d'avoir mené la lutte armée, qui est largement aussi prestigieuse, entre guillemets, en termes de martyrs que celle des Peshmerga d'Irak, mais ils sont tombés sur une impasse. Ils n'ont pas eu cette brèche de la première guerre du Golfe, puisqu'ils avaient en face d'eux un État turc qui était en plus la première armée de l'OTAN, avec le soutien et de l'Europe et des États-Unis, qui, je le rappelle, ont toutes les deux reconnu officiellement le PKK comme organisation terroriste. Donc ils avaient un État qui avait le soutien direct des puissants de ce monde. Et je crois que ça a été l'impasse de la lutte armée stricto sensu en Turquie. L'évolution idéologique du PKK, elle répond à ça. C'est que, en face de nous, l'État est soutenu de l'extérieur par des forces énormes. Donc nous n'obtiendrons pas de solution séparatiste en Turquie. À partir de là, il y a une évolution idéologique qui a tenté de composer avec cet étau. Et le pan-kurdisme ou la stratégie transfrontalière du PKK depuis les années 2000 répond à ça. J'ai pas de solution en interne, je vais chercher des alliés. À l'inverse, Barzani s'est dit, j'ai une solution en interne, je vais inféoder mes alliés autour de moi. Donc vous voyez que c'est deux stratégies très différentes, qui ne sont pas moins légitimes l'une et l'autre sur la kurdicité, qui répondent à des contraintes stratégiques et géopolitiques différentes.
Je ne veux pas apparaître comme le défenseur de M. Barzani, absolument pas. M. Barzani est le responsable de ce qui est arrivé, de ce qui arrive et de ce qui arrivera au Kurdistan irakien. Et il était un des premiers acteurs de la condition kurde en Irak. Il l'est encore et il le sera au moins dans 10 ans à venir. Il a tous les capitaux dans ses mains au Kurdistan irakien. Donc il n'est pas un ange, non, absolument pas. Mais objectivement parlant, avec cette évolution dont Olivier nous a expliqué, et surtout dans son dernier livre, regardez la branche du PKK en Syrie. Auparavant, il a commencé avec Rojava. Tout le monde parlait de Rojava. Aujourd'hui, le terme Rojava n'existe plus dans la littérature de PKK, de PYD, branche du PKK en Syrie.
On parle du nord.
On parle du nord de la Syrie. Dans l'idéologie nationaliste kurde, ça, c'est un péché. Comment un acteur nationaliste kurde peut parler du nord de l'Irak? Au Kurdistan irakien, faites tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire le nord de l'Irak. Dire le nord de l'Irak, c'est comme si vous mettez entre parenthèses toute la lutte nationaliste kurde. C'est pourquoi aucun acteur irakien peut se permettre aujourd'hui, je dis bien irakien, même pas les Kurdes, les Irakiens arabes, de dire le nord de l'Irak. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, oui, peut-être il y a des éléments bien évidemment objectifs, oui, bien évidemment il y a l'alliance internationale, la communauté internationale qui a soutenu la Turquie, mais c'est la même communauté qui a soutenu Saddam Hussein aussi, bien sûr, et pourtant les acteurs nationalistes kurdes n'ont jamais abandonné ce projet. Mais malgré tout ça, aujourd'hui c'est un fait, c'est une réalité que le PKK s'est transformé. Le PKK a fait ses adieux à la kurdicité et il est entré dans un autre projet. Est-ce que le nouveau projet est un projet illégitime? Absolument pas. On n'est pas sur le plan de légitimité ou illégitimité. Tous les projets, chaque projet a sa propre légitimité.
Olivier Grosjean.
Oui, alors je pense que si le PKK s'est transformé, c'est essentiellement de manière pragmatique sur une demande des États-Unis déjà, puisque il ne devait pas être considéré comme un parti uniquement kurde dans le nord de la Syrie, et c'est pour ça que les États-Unis lui ont proposé de créer les FDS, les Forces démocratiques syriennes, qui sont aujourd'hui composées à au moins 70% d'arabes. Et ça a permis justement aux forces du PYD de se déplacer vers le sud et vers Raqqa, donc dans des zones arabes et non kurdes, hein, avec une certaine légitimité, alors que la Turquie ne souhaitait pas au départ que les forces kurdes, justement, participent à la bataille de Raqqa. Du coup, cette arabisation des FDS, qui sont toujours malgré tout contrôlées par des commandants des YPG, donc les forces armées kurdes, et même d'ailleurs en dernier recours par des commandants du PKK, à mon avis, reste malgré tout une force plutôt kurde, notamment parce qu'ils vont devoir se replier de Raqqa. Ils vont devoir se replier des zones qui sont pour l'instant
qu'ils contrôlent. Kurde, mais est-ce que le projet est encore dans le cadre de la kurdicité? C'est ça la question principale.
Non, bah, effectivement, il a mis de côté les éléments ethniques, notamment pour apparaître comme un parti qui est multiethnique, multiconfessionnel, et qui, au nord de la Syrie, permet justement la représentation des Assyriens, la représentation, des Alaouites, pourquoi pas, enfin, des Arabes également, dans les zones qu'ils contrôlent. Après, je suis pas sûr que les États-Unis vont permettre que le PYD contrôle toujours les zones. Là, maintenant, ils contrôlent justement un tiers du territoire syrien. Mmh. Alors que les zones strictement kurdes, ça représente seulement, je sais pas, à peine 10% sans doute du territoire syrien. Du coup, on va sans doute assister dans les mois qui viennent à un retrait progressif de ces forces-là sous contrôle américain, j'imagine, et on va voir quelle va être la possibilité d'union entre le Rojava, à strictement parler, dont je rappellerai aussi que ce n'est pas une zone continue, ce sont trois différents cantons qui ne sont pas
dans
reliés entre eux territorialement. Et puis, est-ce que dans les zones qui ont été libérés par les FDS, va se mettre en place un système qui serait proche du confédéralisme démocratique qui est aujourd'hui mis en place dans les zones kurdes de Syrie, ou est-ce que on va plutôt assister à d'autres formes de gouvernement des populations qui seraient beaucoup moins en lien avec ce que préconise le chef du PKK, Öcalan, de sa prison.
Olivier Piau, vous mentionnez tout à l'heure, et je le prends pour moi, vous parliez de soleil couchant pour les Kurdes en Irak, soleil levant pour les Kurdes en Syrie. Comment imaginer, avec tous les nouveaux développements, et on peut peut-être parler aussi des États-Unis, la décision de Washington de transférer, parce que tout est lié au Moyen-Orient, hein, de transférer donc l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Comment imaginer la place que les Kurdes pourraient avoir dans le Moyen-Orient de demain? Alors, on ne va pas sortir notre boule de cristal, mais il est évident que le jeu avec la question iranienne va être important aussi, Olivier.
Je crois qu'il y a deux mouvements, moi, qui m'apparaissent maintenant. Et si je prenais l'image du soleil, c'est parce que vous le savez, c'est quand même le symbole kurde sur le drapeau kurde depuis les années 20, avec ses 21 rayons qui représentent la date du nouvel an kurde du 21 mars. Je crois que le soleil s'est levé à Mahabad en 46, la première république kurde, qu'il a tourné au sud, comme tous les astres, en tout cas chez nous. Il est passé sur l'Irak à partir de la fin des années 80, et je dirais qu'il est resté bloqué au-dessus de l'Irak pendant presque 20 ans. Et je crois que ce soleil, aujourd'hui, de ce rêve d'autonomie, est en train de tourner vers l'ouest, tout naturellement.
Il n'y aura jamais de soleil au nord.
Le nord, c'est un peu comme les arbres. Quand vous regardez au nord, il y a de la mousse. Pour l'instant, la Turquie, elle est mal servie, mais peut-être qu'il va faire une rotation circulaire. En tout cas, clairement aujourd'hui, le rêve d'autonomie est porté par le laboratoire et l'expérience en Syrie. Je crois que c'est là où la kurdicité a le plus de chances de trouver un oxygène. Mais cet oxygène, elle ne pourra le trouver que dans le contexte de grandes puissances, on le voit, où la scène se joue ailleurs que dans les Kurdistans. Elle se joue dans les grandes capitales, et y compris Washington, peut-être un peu Paris qui apparaît revenir dans la course, mais en tout cas Riyad, Téhéran, et peut-être, alors j'allais dire Tel Aviv, Jérusalem version Trump maintenant. Pourquoi ? Parce que on voit bien qu'à l'occasion du chaos irakien et de la guerre civile en Syrie, cette zone est devenue une zone très ouverte où chacun veut jouer un rôle demain. Quand je dis chacun, c'est ceux d'hier et des nouveaux. La Russie, par exemple, j'entendais le soutien, Olivier Grosjean parlait du soutien des Américains, mais pour l'instant, ceux qui soutiennent le plus le FDS, c'est les Russes. Ils viennent de créer, il y a deux jours, un commandement unitaire à Deir ez-Zor avec des généraux russes. Pourquoi ? Parce que les Russes sont en train de se rendre compte qu'il ne faut pas laisser les Américains seuls avec le FDS. Parce que c'est une option sérieuse pour demain. Je pense à l'option d'un fédéralisme syrien qui intégrerait une autonomie dans les régions du Rojava. Et je pense que les Syriens l'ont très bien compris. Et s'ils font aujourd'hui, s'ils élargissent leur emprise territoriale sur l'Euphrate, c'est pour pouvoir négocier. Si vous voulez obtenir dans les trois cantons une autonomie institutionnalisée dans la future Syrie, il faut pouvoir dire que vous lâchez des terrains sur lesquels vous étiez et qui ne vous reviennent pas. Donc je pense que c'est une pure stratégie tactique militaire. Chacun sait qu'il négociera à un moment avec l'état des lieux des forces militaires. Et donc les Syriens élargissent pour pouvoir lâcher demain dans des négociations. Maintenant, derrière se joue, bien sûr, la coalition en puissance qu'on sent monter entre Israël, les États-Unis et l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Pourquoi ? Parce que dans toute cette zone, l'acteur qui a le plus gagné en puissance sur le terrain, il y en a deux. C'est la Russie, mais surtout par les airs, et au sol, c'est l'Iran. Et je crois que, clairement, il y a une volonté aujourd'hui de Washington, sans tenir compte des conséquences possibles de l'embrasement de cette région, de vouloir stopper l'Iran. Et ça, évidemment, ça aura une influence, y compris sur les questions kurdes.
Alors, c'est une bonne nouvelle, ce qu'évoque à l'instant Olivier Piau, Olivier Grosjean, que cette volonté de contrer la puissance iranienne dans la région, bonne nouvelle pour les Kurdes ?
Je sais pas si on peut dire ça, je pense que personne ne peut le prédire. De fait, à chaque fois que les puissances internationales sont intervenues au Moyen-Orient, c'était pas pour régler la question kurde. C'était en 1991 contre Saddam Hussein, c'était en 2003 contre Saddam Hussein. Quand c'est aujourd'hui on parle de la capitale, du changement de capitale de Tel Aviv à Jérusalem, c'est peut-être aussi contre l'Iran et pas uniquement sur une question palestinienne. Donc c'est plutôt un billard à plusieurs bandes et on ne sait pas exactement où la boule va pouvoir atterrir. Et qu'est-ce qu'elle va permettre chez les Kurdes de Syrie, chez les Kurdes d'Irak. De fait, cette volonté en fait de contrer l'Iran pourra avoir des conséquences. Alors oui, au Kurdistan syrien, mais tout dépend aussi de la position iranienne sur cette autonomie, sur cette autonomisation du nord de la Syrie, puisque la Turquie n'en veut pas et l'Iran n'en veut a priori pas non plus. Donc là, on sera, je pense, dans des négociations entre justement la Russie, la Syrie, l'Iran, pour savoir comment s'articulera cette Syrie de demain et comment elle pourra découper des territoires qui pourront être plus ou moins centralisés ou décentralisés.
Adel Bakawan.
Alors, on parle de la Syrie comme si la Syrie était le territoire d'influence par excellence des États-Unis et des pays européens. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je pense jusqu'à aujourd'hui, le territoire d'influence des États-Unis, c'est l'Irak. C'est en Irak qu'on a fait les deux guerres, la guerre de 1990-91, la guerre de 2003, la troisième guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, quelle est la cartographie de l'Irak? Alors, en Irak, vous avez une communauté sunnite totalement détruite par le pouvoir de Bagdad. Il n'y a plus la représentation politique. Cette communauté sunnite, personne ne peut parier sur elle. La seule, malheureusement, représentation, si on peut dire politique, ce sont les acteurs radicaux sur qui personne ne peut parier, avec qui personne ne peut traiter. Il vous reste la communauté chiite, prise en otage par les ayatollahs iraniens. À ce jour-là, comme ça vient d'être dit, il y a un axe régional, voire international, sous forge, c'est d'abord contre la République islamique de l'Iran, à savoir Washington, Tel Aviv et Riyad. C'est la guerre principale de cet axe-là, c'est contre l'Iran, contre Téhéran. Le terrain là où l'Iran, la République islamique de l'Iran, a la domination totale, c'est l'Irak. Le pays principal n'est pas la Syrie, c'est l'Irak. Je ne vois pas dans ce contexte-là comment cet axe Tel Aviv-Washington-Riyad peut confier toutes les clés du pouvoir à Bagdad à une communauté prise en otage par la République islamique de l'Iran. Et je finis, je pense que le GRK n'a pas dit son dernier mot. Je suis tout à fait d'accord que la communauté internationale n'a jamais intervenu pour défendre les Kurdes dans l'histoire, jamais, depuis 1921 jusqu'à 2017. Mais aujourd'hui, le GRK a su, par chance, se rendre indispensable dans ses rapports de force.
Olivier Piau.
Oui, juste pour dire une chose qui me vient en écoutant mes deux confrères. En réalité, je pense que du côté du GRK et de Barzani, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette coalition contre l'Iran. Parce que dans le rapport de force maintenant entre Erbil et Bagdad, il y a quand même tout un courant à Bagdad qui est un courant pro-iranien, y compris avec le premier ministre chiite. Alors bien sûr, les États-Unis voudraient reconstruire un Irak national fort, pour contrer l'Iran, mais il y a tout un courant pro-iranien auquel est affilié d'ailleurs l'UPK, qui a des liens avec l'Iran depuis très longtemps. Et donc cette coalition Riyad, Israël, États-Unis, pour dire à l'Iran vous restez dans vos frontières et vous oubliez l'hégémonie régionale, ça pourrait servir de rebond au GRK de Monsieur Barzani pour dire vous voyez, vous avez aussi besoin de nous pour contrer cette influence iranienne en Irak.
Oui, Olivier Grosjean.
Oui, d'ailleurs, en fait, là encore un pas de boule de cristal, mais n'oublions pas que le PKK a aussi des forces qui peuvent être activées en Iran, le PJAK, et on peut tout à fait imaginer que un deal avec les États-Unis permette aussi de renvoyer en fait côté iranien un certain nombre de forces qui étaient affiliées pour l'instant au pays grec des Syriens, afin de créer, pourquoi pas, des troubles en Iran. C'est des choses qui sont imaginables. Alors, je dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, mais on peut tout à fait imaginer ce genre de choses aussi, oui.
Étant donné la fluctuation des événements au Moyen-Orient, il est vrai que tout est possible. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Olivier Grosjean, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en particulier du PKK, auteur de La Révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie aux éditions La Découverte. Olivier Piau, journaliste et grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient, aux éditions Les Petits Matins, et Adel Bakawan, sociologue, chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, chargé de cours à l'université d'Evry et membre associé du laboratoire CADIS de l'EHESS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Sophie Janin. Samedi prochain, l'émission vous sera présentée par Chantal Leroux. À très bientôt.